L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Je reçois aujourd'hui Hector Sabot, musicien et compositeur, musicologue, ex-chef de chœur, notamment du chœur des hommes à la Grande Synagogue de Strasbourg, professeur au Conservatoire de Strasbourg, directeur musical des Polyphonies hébraïques de Strasbourg. Mais aujourd'hui, c'est la casquette d'auteur qui l'amène aujourd'hui dans nos studios avec le livre « Histoire de voix hébraïques ». Anamorphose musicale croisée, sortie il y a à peine quelques semaines, et on l'a encore en primeur aujourd'hui, tout chaud dans nos studios. Hector Sabot, bonjour.
Bonjour.
Quand je parle tout chaud, évidemment, je parlais du livre. Alors, après un premier livre, Voix hébraïque, Voyage dans la musique juive d'Occident, sorti en 2020, vous avez mené le projet de ce second ouvrage que vous avez voulu rendre plus accessible. Alors, retour sur le premier livre à destination d'un public érudit, connaisseur. Vous avez mené votre récit telle une enquête sur les traces de la musique hébraïque depuis le Moyen-Âge. Une trentaine d'œuvres sont analysées, accompagnées de leurs partitions. Preuve en est que ce premier ouvrage s'adresse à un public averti. C'était cela au départ, hein.
Oui, au départ, averti et courageux.
C'est bien de le dire.
Il y a toujours ceux qui veulent découvrir. Il n'y avait pas des partitions complètes. Sur les 30 œuvres analysées, il y avait la première page de chaque, pour que les gens qui ne regardent pas d'habitude une partition voient à quoi ça correspond, avec des caractères hébraïques, avec des notes de musique qui donnent un aperçu des œuvres que je présente.
Alors, ces œuvres que vous avez menées, donc on parlait du premier livre, du deuxième qui est sorti, dont on va parler, la sortie de ce second ouvrage qui met en lumière les traces de la musique juive dans la Bible, le chant grégorien hébraïque jusqu'aux compositions des Américains, les musiques de films, les comédies musicales. Alors comment est-ce que vous avez effectué ce travail de recherche minutieux? Vous êtes parti de documents d'archives, comment est-ce que vous êtes documenté? Expliquez-nous votre travail.
En fait, ce livre n'est pas un livre de documentation, c'est un livre d'expérience de la vie. Je pratique cette musique depuis toute ma vie, enfin professionnellement depuis plus de 30 ans. Et au fur et à mesure que j'ai exploré ces œuvres, je les ai chantées, je les ai dirigées, je les ai accompagnées au clavier. Et à un moment donné, un ami cher de la radio, Dan Leclerc, m'a dit: Hector, il faut mettre tout ça par écrit pour que ça ne se perde pas. Et donc j'ai commencé tout simplement à compiler l'ensemble des expériences que j'avais eues. J'avais fait beaucoup de conférences aussi, j'avais écrit des articles pour différentes revues, pour les KKL notamment, j'ai écrit beaucoup d'articles. Et du coup j'ai décidé de regrouper tout ça, de les mettre dans un ordre chronologique et raconter aux gens un peu comment ça s'est passé pour la musique juive, en dehors des clichés habituels, klezmer, yiddish, judéo espagnol, et tout ce qu'on entend, surtout la pop actuellement. Et donc je donne un descriptif un peu historique des styles différents de la musique hébraïque jusqu'à aujourd'hui, où on la retrouve dans la musique des films et dans la comédie musicale notamment.
Alors, on retrouve des traces dans la musique, dans la grande musique, hein, comme on l'appelle, la musique classique. Et des fois, c'est l'apport d'un musicien juif qui va faire du violon et qui va amener une petite influence. Mais déjà ça, on appelle ça la musique hébraïque avec une influence juive.
Voilà, musique hébraïque, c'est une musique qui est inspirée, influencée par la langue hébraïque et par toutes les langues dérivées. Et les yiddish, les ladinos, etc. Et donc la musique, ce n'est que des sons organisés sans paroles. Mais c'est les paroles, a priori, qui vont donner la couleur à cette musique. On différencie une musique juive d'une autre juive parce qu'elle nous parle en yiddish ou en hébreu, et parce que ça ne sonne pas italien ni allemand, mais un peu juif, un peu.
L'histoire de la musique juive, justement, elle suit les migrations et l'installation du peuple juif à travers le monde. Et c'est de ces influences-là que vous parlez?
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, les sous-titres du livre, qui est « Anamorphose musicale croisée », veut signifier, d'après ce qui est expliqué dans le quatrième des couvertures, « Anamorphose », c'est une image déformée qui donne un miroir courbe. C'est-à-dire que quand une musique juive regarde une musique chrétienne, par exemple, elle s'identifie, elle se voit reflétée, mais avec une image légèrement déformée, et vice-versa, parce que beaucoup des musiques chrétiennes se sont inspirées de la musique juive.
Oui, justement, il y a des racines communes.
Et c'est pourquoi il y a les mots « croisement, anamorphose musicale croisée. Et j'essaye d'expliquer à chaque époque comment ces croisements se sont produits, notamment en Europe et en Amérique, puis en Israël.
Ce sont des travaux communs d'orchestre, souvent de composition. Ce sont des rencontres d'hommes, en fait.
Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Au départ, c'est le chant, essentiellement le chant. Au Moyen-Âge, les instruments sont très peu présents. Au XVIIe, XVIIIe siècle, les instruments commencent à prendre une partie importante. Et plus on avance dans les temps, on arrive au XVIIIe siècle, à l'époque romantique, où il y a l'opéra, qui a des représentants juifs très importants, notamment en France. Il y a Halévy, il y a Meyerbeer, en Allemagne, il y a Mendelssohn, qui ne fait pas de l'opéra, mais qui fait beaucoup de musique classique. Et tous ces musiciens qui sont d'origine juive, Offenbach, plus tard Kurt Weill, Leonard Bernstein, qui vont être nourris dans leur enfance de ces mélodies qui viennent du shtetl, de la synagogue, ou tout simplement des chants yiddish, essentiellement ashkénazes, qui les a bercés. Inconsciemment ou consciemment, ils vont composer une musique qui est inspirée de cette tradition musicale qui est la nôtre.
On retrouve également des œuvres hébraïques dans la tradition de musique alsacienne. Ça, vous avez aussi à un moment donné un paragraphe et tout un moment où vous parlez de ces compositeurs qui ont influencé la musique alsacienne et la musique hébraïque qui a créé une culture.
Bien sûr, Strasbourg, son nom l'indique, c'est la ville de passage. Et tous les musiciens qui venaient de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne, qui ont passé par Strasbourg pour aller vers Paris, vers Londres, vers les villes qui sont plus à l'ouest, ont traversé cette ville et ont laissé leurs traces. Il y a des musiciens classiques, notamment au XVIIIe siècle, début XIXe, et des musiciens qui venaient de l'Allemagne, qui avaient côtoyé Mozart, Haydn, Beethoven, et qui se sont retrouvés ici à Strasbourg à laisser leur empreinte avant de continuer leur carrière vers Paris, qui était la grande capitale, vers Londres, etc. Et on retrouve effectivement ces traces. J'ai eu la chance de faire des recherches dans les archives et alsaciens, à Strasbourg notamment, et j'ai trouvé des traces, quand j'ai fait mes recherches universitaires, d'un musicien qui s'appelle Israël Lovi, qui était très connu dans les salons parisiens, et qui était chazan à Strasbourg pendant 8 ans. Et donc ça laissait des marques. Puis il y avait Samuel Naumbourg aussi, qui venait de la Bavière, de la région de Munich, et qui a travaillé à Strasbourg comme chef de chœur à la synagogue, qui est passé par Besançon pour arriver à Paris, qui a écrit une énorme production qui est aujourd'hui chantée dans le monde entier.
Aujourd'hui, cette influence juive est mêlée à la musique contemporaine, à la musique classique, à la musique plus de pop culture, comme vous le disiez tout à l'heure. On a encore des traces, ou est-ce que ce n'est plus le sujet aujourd'hui d'avoir des influences des uns des autres? C'est juste de nouvelles créations et ce n'est plus marqué d'influences hébraïques ou autres.
Mais les influences, on les trouve un peu partout, dans les jazz notamment, avec John Zorn qui a créé une maison d'édition qui s'appelle Tzadik et qui compose de la musique pop jazz d'inspiration ouvertement juive. Il y a Krakauer, par exemple, le fameux clarinettiste de jazz aussi, qui fait beaucoup d'incursions dans la musique klezmer. Et dans chaque domaine, il y a effectivement ces influences. Dans les jazz aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israéliens, des musiciens israéliens qui tournent partout dans le monde et qui amènent à leur création ces bagages, cet héritage patrimonial des sons, de la musique qui coule à travers les siècles et qui vient évidemment de la musique synagogale.
Alors, on est surpris parce que, on le disait, vous êtes musicologue, ex-chef de chœur du Chœur des Hommes ici à la synagogue, à la grande synagogue de Strasbourg, les chants hébraïques. Mais en fait, être musicologue, être musicien, c'est être curieux de la musique, de la création en général. Au-delà, il y a pas de frontières dans la musique. Vous me parliez de jazz, de musique de film, de musique classique, de musique klezmer. Il y a pas de frontières en fait.
Disons que les frontières sont là, mais les musiciens les plus courageux les traversent tous les jours et font des allers-retours. Depuis, par exemple, Gustav Mahler, qui était le plus grand chef d'orchestre en Autriche à la fin du XIXe siècle, il n'était pas du tout ouvertement juif. Il était juif de naissance et il avait vécu dans cette tradition austro-hongroise du shtetl, il était tchèque en fait. Hein. Et donc il a mis, sans le vouloir ou peut-être exprès, par exemple du klezmer dans sa première symphonie, nous coûte le troisième mouvement qui commence par Frère Jacques joué en tonalité mineure et qui se termine dans une fête, on dirait une bar mitzvah ou un mariage, avec du klezmer et avec du yiddish. Et la musique, elle parle d'elle-même. Aujourd'hui, tous les musiciens s'accordent à reconnaître ses influences. Jacques Offenbach, par exemple, que tout le monde connaît par La vie parisienne et Orphée aux enfers, l'opéra comique, les créateurs de l'opéra bouffe en France, et fils de Khazan, son père était à Cologne, et a une influence très très forte. On se demande d'où l'opéra français a sorti ses airs tellement enjoués, enlevés. Et la réponse est très simple, ça vient de l'Est, la musique klezmer, sa danse, sa virevolte. Et etc., etc. Chez Kurt Weill, on retrouve la même chose. Et comme je disais avant, Leonard Bernstein est un exemple parfait. Tout le monde connaît West Side Story, mais peu de gens savent qu'au départ, ce n'est pas des Portoricains et des Irlandais qui se battent, mais des Israéliens et des Palestiniens.
Ah ben ça nous rappelle une triste actualité. Aujourd'hui, voilà. Alors pour parler d'Israël, de musique évidemment, est-ce qu'aujourd'hui l'influence hébraïque en Israël, parce que souvent on est les prophètes ne sont pas prophètes justement en leur pays, elle a une forte influence ou on a souvent l'impression que même au niveau de la musique pop, c'est plutôt une influence très américaine et que le côté peut-être oriental ou klezmer est un petit peu gommé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Non, je crois qu'il y a rien qui est gommé. Il y a tous les styles, il y a toutes les influences, il y a tout qui se mélange. Il y a beaucoup d'influences orientales des Juifs venus des pays de l'Orient. Il y a des groupes de musique irakienne, par exemple, qui chantent en hébreu. Et il y a de tout. C'est un melting pot, franchement. Et tout ce qu'il y a de plus croisé, tout ce qu'il y a de plus mélangé.
Comme la population israélienne. Hein.
Exactement. La musique reflète toujours la culture des gens avec ce qu'ils amènent dans leur bagage, d'où ils viennent, les origines, les croisements. Et on appelle ça les fusions aussi.
Aujourd'hui, ce livre « Histoire de voix hébraïque, anamorphose musicale croisée », on peut le trouver dans certaines librairies. À qui il s'adresse ? On le disait à un public de connaisseurs, aux curieux de la musique et qui veulent enrichir leur culture musicale personnelle.
Ben c'est surtout aux curieux. Ce livre m'a été commandé il y a quelques années et justement dans un petit format avec une centaine de pages, avec un langage accessible à tous, à tous les curieux qui veulent découvrir ou redécouvrir. Il n'y a rien de technique, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'exhaustivité dans la présentation des œuvres. Il y a tout simplement un voyage, c'est presque du tourisme culturel. Hein. Quand on regarde la table des matières à la dernière page, on voit que ça commence avec Jérusalem, la destruction du temple, les écrits de la Bible, puis on passe par Vienne, Paris, Berlin, et on fait un tour en Ukraine aussi, qui est un berceau très important de la musique juive. Puis pour traverser les océans et se retrouver en Amérique, en Israël. Et puis en France, au 21e siècle, il y a des créations contemporaines, il y a des commandes qui sont faites par des festivals ou par des maisons d'opéra où la thématique est juive. Et du coup, les compositeurs osent, sans aucun complexe, faire chanter en hébreu. Et c'est ça qui est important dans ces livres, c'est que je montre que l'hébreu est presque le seul élément qui nous unit tous, Ashkenaz, Sépharad, Juifs italiens, Juifs orientaux, c'est l'hébreu. C'est le passage de la langue à travers la musique qui communique et qui parle à tout le monde.
Évidemment, j'invite nos auditeurs à se procurer ce livre. Il est dans les bonnes librairies de Strasbourg, on peut le commander.
Il y a au moins trois librairies, Kléber, la librairie du Cédra, Armand Meyer, Arpège. Et évidemment, on peut le trouver en ligne également.
Alors, ce livre, j'imagine, n'est pas exhaustif, c'est ce qu'on disait. C'est une belle épopée dans la musique hébraïque. Est-ce que vous envisagez déjà une suite ? Vous avez commencé à y réfléchir ou...
Non, il n'y a pas vraiment de suite. La suite, c'est ma vie, en fait. je continue à écrire parce qu'une fois qu'on est pris par ces virus, oui. Il est difficile de s'en défaire. Ils n'ont pas encore trouvé des vaccins. Donc, quand je ne suis pas occupé à diriger, à jouer, à enseigner, et j'écris et j'essaye d'imaginer qu'est-ce que les gens peuvent aimer lire par rapport à la musique, par rapport à son évolution, par rapport à, aux expériences que j'ai en abordant cette musique, que je n'aborde pas en exclusivité, parce que je joue également des concerts de musique classique. Mais curieusement, chaque fois que je joue du Mozart, du Bach, du Beethoven, il y a des petites touches de judaïsme qui apparaissent parce que tous ces gens-là ont côtoyé, ont fréquenté des gens juifs. L'histoire officielle ne les raconte pas trop parce que ce n'est pas, soi-disant, politiquement correct. Et il faut savoir que la musicologie au XXe siècle a subi un revers très important, c'est le nazisme. Et les musicologues nazis avaient pour mission d'effacer toutes les traces juives dans la musique d'Europe, notamment. Et quand on commence à regarder de près, on trouve des documents d'archives et beaucoup, beaucoup d'informations qui montrent les rapports de tous ces fameux musiciens qu'on connaît aujourd'hui comme étant classiques, qui avaient des rapports, leur éditeur était juif, il y avait des voisins, il y avait des échanges souvent cordiaux et pas toujours de l'antisémitisme comme on voudrait les montrer. Et donc c'est toujours intéressant de voir et de connaître ces croisements pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et améliorer notre présent.
Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on évoque rapidement les émissions. Vous avez mené une quarantaine d'émissions. Alors, c'était sur nos ondes, mais on peut la trouver sur des plateformes d'écoute qui s'appelaient Ledor Vador, la musique juive de génération en génération. Qu'est-ce que vous abordiez dans ces émissions si des auditeurs veulent réentendre et effectivement se parfaire dans cette culture de musique juive?
Voilà, donc c'est cette série des 40 émissions qui ont eu ici même lieu avant le Covid, c'était en 2019, avait comme but de présenter mon précédent livre. Donc toutes les œuvres, la trentaine d'œuvres que j'ai présentées dans les livres que j'analysais, je les faisais écouter. Parfois j'avais aussi des invités, et on avait des dialogues et chaque invité parlait un peu de son expérience avec différentes musiques juives. Et avec des émissions d'une demi-heure, pendant 40 semaines, on a raconté l'histoire ou des histoires de la musique hébraïque telle que je les présente dans mes livres.
Bah écoutez, comme ça, c'est on va dire quelque chose de transversal et on a effectivement tous les aspects de cette musique. Alors à écouter, à lire, à entendre pour dans les émissions de radio, donc les Dor Vador que vous avez menées. Hector Sabot, merci infiniment d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire de voix hébraïque, anamorphose musicale croisée. Et vous le disiez, on le trouve à Strasbourg ou en ligne. Et bah écoutez, petit bijou de la musique, on va dire de la grande musique, de la culture musicale et en particulier de la musique hébraïque. Et pour cela, merci à vous.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.